toutes et à tous.
Bonjour. Je suis très ravi d'être là ce matin parmi vous. Et à chaque fois qu'on me demande de venir à vous apporter le message, c'est un plaisir pour moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Lies, je suis passé par cette église entre 2009 et 2010 en raison de mon stage que j'ai effectué avec Peter et Martina dans l'évangélisation auprès des musulmans dans la ville. On tenait le stand au marché et aussi à l'église aussi où j'avais l'habitude de prêcher. Donc c'était un plaisir pour moi. Autre détail, c'est que depuis maintenant 2 ans, je suis engagé avec les GBU comme chargé de mission auprès des étudiants musulmans en France. Et donc, plus j'avance dans mon ministère, plus je découvre l'ampleur du travail. Il y a 3 jours, j'étais à Orléans, donc j'ai animé une conférence dans une brasserie hein, sur le thème « Comment peut-on être sauvé selon la Bible et selon le Coran ?» en face d'un imam venu de Saint-Denis. Il y avait très encourageant puisqu'il y avait plus d'une trentaine de personnes. Il y avait des femmes voilées dans une brasserie aussi, hein. Il y a des musulmans. Et la majorité étaient musulmans. Et c'est très encourageant parce qu'au bout de 2 heures, on a fait un chemin ensemble. Et je pense que le but est atteint dans la mesure où tous ont compris le plan de salut de Dieu dans la Bible. Et qu'on ne peut être sauvé que par la grâce. On l'a chanté. Et c'est une réalité, parce que par les œuvres, personne ne peut être sauvé. Après, peut-être quelqu'un peut essayer, mais il n'arrivera jamais. La Bible nous dit que vous n'êtes pas sauvé par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et que par notre nature pécheresse, on ne peut pas faire plus de bonnes œuvres. On est limité. On limite nous-mêmes. Donc, j'ai aussi l'habitude de vous envoyer mes lettres de nouvelles. Je ne sais pas si vous les affichez au tableau d'affichage. Et donc, pour vous dire aussi toute ma gratitude et ma reconnaissance pour le soutien que l'Église m'accorde pour mon ministère. Là, je suis très reconnaissant. Sans tarder, donc, je vais commencer mon message de ce matin. Et tout à l'heure, Patrick nous disait, là, je vais passer à une phase où je vais vous stresser. Donc, il nous a cité les passages de Matthieu 5, 23, 25, qui nous appellent à la réconciliation. Et aussi l'évangile de Matthieu 8, 19 à 22, qui nous appelle aussi à la consécration, voilà, sans limite, que les morts laissent enterrer leurs morts. Et moi, ce matin, je vous apporte un message de la part de Dieu. Et il se situe entre ces deux références que Patrick a citées. Et j'aimerais juste vous poser une question. Qui d'entre nous, je m'y implique, n'a pas stressé dans sa vie suite à un événement, suite à un sujet, suite à une situation? Je pense que chacun a vécu au moins une situation difficile dans sa vie. Et c'est normal parce que nous sommes humains. Et je pense qu'il n'y a personne, vraiment personne, qui va dire « Moi, franchement, ça va bien. Ça m'est jamais arrivé. Même au bac, j'étais vraiment serein. » Non, je pense qu'aucun. Et on a tous eu une période assez difficile. Et d'après un sondage réalisé il n'y a pas longtemps, 7 personnes sur 10 souffrent d'angoisse. Et ce problème n'atteint pas seulement les pays développés, mais tous les continents. Ce n'est pas d'ailleurs un phénomène nouveau, puisque ça existe depuis que l'homme a connu le péché. Parce qu'avant, l'homme était auprès de Dieu, il n'y avait pas de mal. Et donc si l'angoisse existe, si cette inquiétude existe, c'est aussi, on peut le considérer comme étant la conséquence du mal ou du péché. L'homme moderne a moins de peur, on peut dire. C'est-à-dire, il ne peut pas s'angoisser peut-être de mourir de faim, parce qu'il y a la nourriture en abondance. Et il a aussi, avec le progrès de la médecine, il a réussi à prolonger les jours de sa vie, enfin, à allonger, on peut dire, la durée de vie qui passait peut-être de, à l'époque il y a 60 ans, 50 ans moyenne d'âge pour les hommes ou 60 à 80 peut-être pour ou 75 aujourd'hui. Mais malgré cela, malgré ce progrès, on trouve que la souffrance est là, l'angoisse est là. Vous, vous passez devant la pharmacie, vous allez voir toute la gamme de médicaments qui existent pour lutter contre le stress. Et malgré ces progrès, il y a toujours ces lacunes qui existent. Et la question qui se pose, on sait que le stress existe, mais est-ce qu'il y a un moyen efficace pour lutter définitivement contre ces craintes, contre ce stress et cette angoisse? La Bible nous dit, oui, heureusement, qu'il y a un moyen. Ce moyen réside en Christ. Il y a 2000 ans, Christ est venu nous apporter cette quiétude dans le cœur et cette tranquillité dans notre âme. Et c'est vrai qu'on peut stresser face à des situations parce qu'il y a toujours un changement dans notre vie. De célibataire, on passe à marié. D'une chambre qu'on occupait chez les parents, on passe à un appartement. Voilà, donc il y a toujours des choses à faire. Mais si on a Christ dans notre vie, Christ est là pour nous aider. Il ne nous abandonnera jamais. C'est pour ça que je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans Matthieu 6. Je vais lire Matthieu 6, 25 à 34. Nous allons découvrir ensemble qu'est-ce que Jésus nous dit dans sa parole. Matthieu 6, 25, 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas des provisions dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante dans les champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtera-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ?» ou « Que boirons-nous ? Avec quoi habillerons-nous » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent. Mais votre Père qui êtes aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se suffira de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Il faut savoir que dans ce contexte, nous sommes au début du ministère de Jésus qui s'ouvre sur le serment sur la montagne où Jésus se place comme l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et c'est là où il annonce aussi une nouvelle loi qui gère le nouveau royaume que nous formons avec lui. Et Jésus accomplit parfaitement toutes ces prophéties qui parlaient de lui, notamment celle d'Ésaïe 61 où il dit « Je suis celui que Dieu a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil. » La confiance en Dieu doit remplacer nos inquiétudes. C'est pourquoi je vous dis, verset 25, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? C'est pourquoi ici se rapporte bien évidemment à ce qui précède. Dans le verset qui précède, Jésus affirme « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. » La manière dont Christ intègre le texte, intègre sa perspective sur l'inquiétude est très intéressante. S'inquiéter peut tellement prendre la tête à quelqu'un qu'il peut même oublier que Dieu existe. Ça prend toute la place dans sa vie et on oublie tout ce que Dieu a fait pour nous depuis qu'on l'a connu. Et évidemment, on va chercher un autre moyen, un autre refuge pour oublier cette peur. Mais nous oublions aussi cette parole qui dit de Jésus qui nous invite à venir à lui, nous qui sommes tous fatigués et chargés, et il nous donnera du repos. Dans les versets qui précèdent, Christ met en garde les riches du danger de placer leur confiance dans les biens matériels. Et ici, il met en garde les pauvres en esprit, ceux qui ont peu de foi, du danger de douter de la providence de Dieu. Et dans les deux cas, il y a absence de relation confiante en Dieu. En fait, c'est la confiance qui est absente. Jésus répond par trois fois, « Ne vous inquiétez pas », il le dit trois fois, au verset 25, au verset 31, au verset 34. Et ces trois impératifs impliquent que ses auditeurs étaient très inquiets. Et on imagine qu'au début, ils ne comprenaient pas tout. Et ils étaient là en train d'écouter, mais en même temps inquiets. Et Jésus leur demande de s'arrêter de s'inquiéter. Parce qu'on ne peut rien faire en s'inquiétant. Au contraire, on va se stresser, et puis tomber malade, et puis acheter des médicaments, et puis ne pas travailler. Voilà ce qu'on essaie de trouver avec cette inquiétude. Mais plutôt de tourner, en fait, ses regards de confiance à Jésus. Remarquez aussi l'objet des inquiétudes. Manger et se vêtir. Parmi les nécessités primordiales de l'individu, il y a manger et vêtir. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Est-ce qu'il voulait dire, ok, vous avez faim, bah tant pis, vous mourrez. Ou vous n'avez pas de travail, vous restez comme ça. Non, il ne dit pas. Ce que Jésus voulait dire, c'est que vos demandes sont légitimes, évidemment. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement aussi. C'est aussi une réalité. Mais il ne veut pas que ces demandes légitimes puissent prendre le dessus sur quelqu'un. De chercher que ça. D'arriver que de l'argent, chercher que l'argent, chercher que à manger, chercher qu'à se vêtir. Je ne sais pas, il parle plus des vêtements somptueux sans doute. Voilà, faire les magasins, je sais pas, la fièvre acheteuse quelque part. Acheter. Et Jésus était parfaitement conscient que ses disciples pouvaient aussi avoir faim, même ceux qui le suivaient. C'est lui même qui a prié quand même pour la multiplication des pains. Il aurait pu leur dire, si c'était vraiment ce qu'il voulait dire au départ, de rester, ne pas demander. Mais au contraire, il soutient les demandes légitimes, mais que ces demandes-là ne dominent pas la personne. Dans son principe, l'argument de ces versets est le suivant. Dieu, créateur des hommes, n'est pas limité pour prendre soin de sa création. Je crois qu'il est plus difficile de créer quelqu'un que de le nourrir quand même. Donc Dieu nous a créés quand même. Donc le nourrir, c'est encore plus facile. Nous vêtir, c'est encore plus facile. Nous aider à trouver un travail, c'est encore plus facile. Parce que ce qui est difficile, c'est plus de créer quelqu'un. Et justement, Jésus essaye d'encourager ses disciples et ceux qui l'écoutaient de ne pas s'affoler dans leur inquiétude, mais qu'ils puissent penser à Dieu, aux soins qu'il peut apporter à sa création, puisque c'est lui qui l'a créé. Donc Jésus cite plusieurs exemples pour montrer à la fois la futilité de s'inquiéter et la manière dont il faut gérer ses inquiétudes. Et il dit, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, faire confiance à Dieu. Dieu nourrit les plus faibles. Il dit, vous allez voir comment Dieu prend soin des plus faibles. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Je pense qu'on a plus de valeur que les oiseaux quand même. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et nous sommes tous des créatures merveilleuses. Et Dieu prend soin de sa création et à plus forte raison, il prendra soin de nous. Le premier exemple évoque le soin que Dieu accorde aux plus petits de sa création. Les oiseaux sont nourris par le Père, pourtant ils font rien. C'est vrai qu'ils cherchent leur nourriture aussi, ça ne tombe pas du ciel. Pareil pour nous, si nous voulons trouver quelque chose, je crois que le premier pas à faire, c'est d'y aller chercher un travail. Et c'est là où Dieu aussi veut se manifester, à côté de nous ouvrir les portes. Et c'est là où on va dire, mais c'est un miracle, parce que je suis allé et les gens m'ont dit, il n'y a pas de travail. Enfin, ils ont dit à d'autres qu'il n'y a pas de travail. Et moi, quand je suis arrivé, le patron m'a accepté. Comment se fait-il? C'est un miracle. Et Dieu était là. Et donc, Dieu a tout disposé pour ses enfants. C'est comme un père qui dispose tout pour ses enfants. Pour un père, il est primordial que ses enfants trouvent un lit, trouvent à manger. Il s'inquiète pour eux, sans leur dire que je m'inquiète, enfin, sans leur expliquer tout. Et les enfants, ils trouvent cela. Et ça leur fait du bien. C'est Dieu qui fait la promesse de pourvoir. Et c'est Dieu qui nous demande de lui demander. Il ne dit jamais, vous demandez, mais ça dépend de votre demande. Elle est un peu compliquée, ça peut prendre du temps. Non, il dit, demandez et vous recevez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Et Dieu nous encourage en quelque sorte. Trouver un Dieu qui nous crée, qui nous encourage à lui faire confiance, je pense que même un humain ne peut pas cela. C'est Dieu qui demande à ses enfants de lui demander. Et tout ce qu'il demande, il leur sera accordé selon sa volonté. Nous dépendons de Dieu. L'apôtre Paul a connu aussi des moments difficiles. Je cite l'apôtre parce que lui aussi, qui était un précurseur de la première église, a vécu des moments de détresse. Il était emprisonné, fouetté, mis en quarantaine, qu'on a cherché aussi à faire mourir. Plusieurs étapes dans son ministère, mais n'a jamais été abandonné par Dieu. Jamais. Il a même souhaité la mort. Mais il disait que si Dieu m'accorde la vie, c'est qu'il y a quelque chose aussi. C'est qu'il veut faire quelque chose avec moi. Cette promesse ne dit pas qu'il n'y aura jamais de souffrance. Et parce que nous vivons dans un monde qui souffre et ne sommes pas nous sommes dans le monde, dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes détachés du monde. Mais que notre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent, mais se contenter de ce que nous avons actuellement, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, ni t'abandonnerai. » Hébreux 13, verset 5. Si la crainte de manquer de quoi manger est forte, pour certains, il en existe une autre qui saisit les tripes de bien d'individus et c'est la crainte de la mort. Parce que certains, ils s'inquiètent de... Mais ils oublient qu'il y a une grande crainte, c'est celle de la mort. Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Personne. Moi, j'ai jamais vu un scientifique dans une revue dire que grâce à mes recherches, grâce à mes progrès, grâce à mon intelligence... Normalement, je devais vivre 75 ans, mais grâce à tout ça, j'ai réussi à prolonger ma vie de 15 ans. Et là, je suis fier. Mais je n'ai jamais vu ça. Ça n'existe pas. Aucun ne peut dire que, grâce à mes forces, je peux prolonger ma vie tant que je veux, de 60 ans. Ça n'existe pas parce qu'on est limité. Donc ça ne sert à rien qu'on réfléchisse jour et nuit. Ça ne bouge pas et ça reste tel que Dieu l'a fait, l'a écrit dans son plan. Et c'est ce qu'il voulait rappeler. Il disait, mais ok, vous vous inquiétez, ok. Et après? Et vous avez progressé de quoi? Une coudée, je sais pas, 50 cm, je sais pas. En matière de temps, peut-être un jour, ça vous... c'est pas beaucoup. La peur de la mort est parmi les peurs les plus légitimes et les plus tenaces. L'Ecclésiaste nous dit parfois qu'il est, il aime bien entrer dans la maison de deuil plutôt que dans une maison où il y a la joie. Pourquoi ? C'est pas parce qu'il est pessimiste, mais ça lui rappelle un peu que la vue n'est qu'une d'une courte durée. Et ça le fait réfléchir aussi sur qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Et quelle est la place de Dieu dans sa vie ? Est-ce que sur 24 heures, il a accordé 13 secondes à Dieu ? Ou 15 minutes ? Ou une heure ? Et le reste, à faire la fête ? Ou à manger, à se vêtir, à faire les magasins ? Donc ça le fait réfléchir quand il voit le mort. Il dit, mais mince, il était avec nous, il a disparu. Franchement, incroyable. Et donc ça fait réfléchir. La mort sert plus que tout autre événement de la vie à nous éclairer sur notre vie. Et dire, faisons plus attention déjà à notre relation avec Dieu, plutôt qu'à perdre du temps à chercher ce qu'on va... Enfin, à courir derrière la nourriture et les vêtements. Dans Jean 1, 5, 11 à 12, il est écrit, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que, que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Ça, c'est rassurant. Ça, c'est apaisant. Ça, c'est vraiment réconfortant de voir que nous sommes tous ici croyants en Dieu, nous bénéficions du salut éternel. Et pour certains qui n'ont pas encore décidé au jour d'aujourd'hui, de dire oui au Seigneur. J'aimerais bien aussi que cette inquiétude qui m'agace sur la vie après la mort, sur ce qui va m'arriver, je veux que aujourd'hui te donner ma vie. Je veux croire en toi. Donc c'est aussi un jour d'invitation aux personnes qui hésitent encore à se prononcer aujourd'hui. Sur son lit de mort, le prédicateur britannique Charles Simeon souriait largement et demanda aux gens rassemblés dans sa chambre, « D'après vous, qu'est-ce qui me réconforte le plus en ce moment ?» Comme ils ne savaient pas, ils ont rien dit. Il leur a dit, « La création. Je me demande, est-ce Dieu ou moi qui a créé le monde ? C'est bien lui. Alors, s'il a fait le monde et toutes les planètes de l'univers, il peut certainement veiller sur moi. Je peux donc en toute sécurité remettre mon esprit entre les mains de Jésus. » Donc c'est une manière de... On raisonne un petit peu pour trouver beaucoup de sagesse. On n'a pas besoin de s'inquiéter beaucoup pour se perdre. C'est un peu... Il faut raisonner un petit peu et dire, on a un sauveur, on a un Dieu créateur qui est merveilleux, au-dessus de tout. Il a tous les pouvoirs. Ben, pourquoi je m'inquiète ? Si vous n'avez pas cette douce assurance qu'à votre mort vous irez auprès de Dieu, sachez que Dieu tend la main. Toujours par Jésus, pour sauver ceux qui auraient le courage et la confiance en lui. Et Dieu connaît toutes choses, même, et c'est David qui nous le dit aussi dans le psaume 139, verset 16, il nous dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Et sur mon livre et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Et Dieu, évidemment, il force personne à croire, il force personne à faire quelque chose. Et Dieu respecte la liberté de l'individu. Sinon, Dieu aurait fait de tous des croyants. Mais non, il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Et c'est pareil, il nous parle par sa parole qui est... parole de vie, et le choix relève à chacun. Le choix de lui appartenir, de lui faire confiance, et de mettre fin à ses inquiétudes. Et tous nos jours sont inscrits sur le livre de Dieu. Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Observez comment croissent les lis des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi. Et dernier exemple qu'il cite ici, c'est le soin que Dieu accorde à la vie. Il a créé la vie, il lui accorde le soin. Et là, on est aux portes du printemps, en marchant, en voyant les jardins, j'ai vu des arbres déjà fleuris. Et c'est merveilleux de voir comment les saisons tournent, où la nature meurt et renaît, et elle donne cette vie. Et si Dieu fait circuler les quatre saisons dans une année, et je pense qu'aussi il est maître de, en nous, et qu'il peut nous donner cette vie, et ouvrir nos, des portes pour nous. Il utilisait les oiseaux qui œuvrent Dieu, qui cherchent leur nourriture, ils la trouvent. Et là, il nous parle des fleurs des champs, qui sont mieux vêtues que le roi Salomon dans toute sa splendeur. Dieu ne fera-t-il pas attention à l'agrément de sa création et à sa créature merveilleuse? Dieu est maître de la vie. Il nourrit, conduit à son terme et revêt ses enfants. Donc, Cette espérance, que cette foi ne reste pas dans les sphères spirituelles du dimanche matin uniquement, mais que ce soit une foi, une espérance à 100% pour notre vie chrétienne tous les jours. Il faut que ce message d'espérance réside en nous tous, dans tout ce que nous faisons, demain, après-demain, cette année, dans les années à venir. L'inquiétude qui nous tenaille parfois provient d'une mauvaise compréhension aussi de la personne de Dieu. Peut-être nous ne connaissons pas bien Dieu. Peut-être, et c'est pour ça que l'Église fait beaucoup de projets pour faire connaître la parole de Dieu par les maisons de quartier, par ou les réunions de prière ou les sessions d'études bibliques. Parce que si on ne connaît pas bien Dieu, par sa parole, il nous est difficile de savoir un peu quelle est sa volonté pour nous. Et on dit que parfois, je pense qu'il voudrait dire. Donc, c'est pourquoi il faut considérer et comprendre que Dieu est présent à chaque seconde. Il nous invite à s'appuyer sur lui. Et c'est ce qu'il dit dans l'ensemble du message de sa parole. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que rien n'échappe au regard de Dieu. Il n'y a aucun endroit privé où Dieu ne peut pas entrer. Peut-être chez nous, nous avons tous un endroit privé. Même dans notre cœur, nous avons tous un espace privé. Que même si nous sommes en relation avec des personnes, mais cet endroit privé reste privé pour nous. Mais Dieu, il le sait, il le connaît. C'est pour ça qu'on ne peut lui rien cacher. Et soyons aussi sincères dans notre attitude à Dieu. Pour que cette angoisse puisse aussi disparaître et tout lui remettre. De toute manière, il connaît même les cheveux de nos têtes, même si moi, j'en ai pas beaucoup. Mais il connaît toutes choses. Christ conclut cette première partie avec des descriptions troublantes de ceux qui s'inquiètent. Gens de peu de foi. Et c'est vrai que si on a un peu plus la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu, de tout faire confiance, on peut faire des progrès, on va faire des progrès. Et nous trouvons ces qualificatifs de gens de peu de foi dans quatre passages dans le même évangile. Le premier passage, c'est dans Matthieu 8, 26. Lorsque les disciples sont dans la barque, que survienne la tempête et qu'ils craignent de couler. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils réveillent Jésus. Comme si eux, tout ce qu'ils avaient reçu, c'était du pipeau. Alors que normalement, ils devaient dire, ok, franchement, faisons quelque chose, je ne suis pas importuner le Seigneur, je ne sais pas, on a reçu quand même des paroles, bah, du coup on va les mettre. Non, bah, ils l'ont réveillé, ils ont dit, bah, elle est où votre foi? Matthieu 14, 31, lorsque Pierre met un pied sur l'eau, qu'il perd confiance et s'enfonce. D'un côté, il était confiant, donc il a marché sur l'eau, puis soudainement, la raison lui revient, je ne sais pas comment il a fait. Ah, je marche. Et puis il est son père. Ouais, il a fait ça. Matthieu 16, 8. Lorsque les disciples ne comprennent pas l'enseignement de Dieu sur le levain des pharisiens. Et Jésus, quand il a expliqué que cette parabole, ils n'avaient pas compris. Et c'est là où il leur dit, mais elle est où votre foi? Et le dernier épisode, c'est dans Matthieu 17, 20, lorsqu'un enfant n'a pas été guéri, n'a pas été délivré suite au manque de confiance des disciples, il leur a dit, mais elle est où votre foi? C'est une parole forte. S'inquiéter de ces choses, c'est comme si on s'inquiète au milieu d'une tempête. Et généralement, je ne sais pas si vous avez déjà suivi une formation en sécurité, incendie ou autre. Je ne sais pas, même à l'école, pour les enfants, on essaie toujours de leur expliquer qu'en cas de tremblement de terre, en cas de catastrophe naturelle, en cas d'un acte terroriste ou d'une bombe, je ne sais pas, il faut pas s'inquiéter. Il faut, enfin, des consignes de sécurité qui marchent très bien. Ils disent qu'il ne faut jamais revenir en arrière, par exemple, quand vous voyez, ben ici, la salle est équipée d'une sortie de secours. Quand vous ouvrez la porte et vous y allez, il ne faut jamais retourner, même si vous avez laissé 1 million derrière vous, parce que vous allez bloquer tout le monde et vous allez tous mourir. Pour 1 million, ben, que personne, ben, peut-être c'est les autres qui vont hériter de cet argent. Et donc, dans une situation de panique, c'est là où on a besoin d'être confiant, de ne pas s'inquiéter, parce qu'on risque de faire une grosse bêtise. Enfin, c'est un peu logique. Et c'est vraiment paniquant, évidemment, stressant, parce qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir. Mais c'est là où nous devons fournir plus d'énergie à faire confiance, à se poser, à réfléchir, à demander de l'aide, plutôt qu'à essayer de tout faire par soi-même. Et on risque un peu de... Parce qu'on est perturbé. Parce que Dieu est père de ses enfants. Tout à l'heure, je crois que ça a été annoncé que si nous avons Dieu pour père, c'est parce que nous avons Christ pour frère. Matthieu 16, 31-33. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ?» ou « Que boirons-nous ?» ou « De quoi serons-nous vêtus ?» Car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Les païens, enfin, de terme ancien ou les non-chrétiens aujourd'hui, n'ont qu'une seule chose dans la vie, les choses de ce monde. Voilà. Vous n'avez qu'à acheter peut-être un magazine People, vous allez voir. C'est simple. Et après, vous vous interrogez pourquoi ils achètent une bague à 100 000 euros ou une montre à 200 000. Parce qu'ils veulent les choses de ce monde. Quant aux chrétiens, qu'est-ce qu'ils veulent? Les chrétiens, ils sont citoyens des cieux. Philippiens 3, 20. Jésus dira d'eux qu'ils sont dans le monde, mais pas du monde. Ce que je disais tout à l'heure dans Jean 17, 15 à 18. Donc, les chrétiens sont appelés à chercher les choses d'en haut, de penser à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. L'attitude des chrétiens devant les choses de cette terre doit être radicalement différente. C'est pour ça que quand Jésus parlait des riches et de la richesse, c'est les gens du monde qui la cherchent, elle domine sur eux. Et il dit pour suivre Dieu, il ne faut pas que la richesse domine sur toi. En gros, dans son enseignement, c'est pas que Dieu veut que tous soient pauvres, hein. C'est pas ça son but. Mais il sait que l'amour de l'argent éloigne de Dieu. Cette attitude doit refléter un juste sens des priorités. Il faut qu'il y ait des priorités dans notre vie. Et ça, nous devons aussi le trouver, toutes ces priorités, dans la parole de Dieu. Et la priorité pour nous tous, c'est Dieu. C'est Dieu qui doit être le centre des priorités de chacun. Ceux qui connaissent Dieu ont un refuge dans la tempête. Et c'est vrai que tout à l'heure, il disait, ceux qui veulent me suivre, les oiseaux ont des nids, les loups ont des tanières, et le Fils de l'homme n'a pas à vous mettre sa tête. Il parlait aussi de la consécration, qu'il ne fallait pas compter. Mais Dieu est un refuge. Dieu, il accueille tous ses enfants. Il leur offre le réconfort. Et cette image, nous la voyons chez les enfants. Je me merveille de la simplicité à la conception des enfants. Comment ils voient les choses? Ils savent que leur père et leur mère sont là. Ils leur demandent toutes choses en toute liberté, sans dire... sans réfléchir. Et vous allez voir la différence. Un enfant, il demande tout à ses parents, et il ne demande pas beaucoup aux autres. Je crois que c'est logique. Parce qu'il ne les connaît pas. Il peut pas. Ben, vous pouvez essayer, je sais pas. Il ne demande jamais aux autres, parce qu'il ne connaît personne. Enfin, il connaît, oui, côtoie, mais il ne demande pas parce qu'il n'a pas la confiance. Et il sait que ses parents vont répondre à ses besoins. Et surtout, si aussi un père fait l'expérience de dire à son enfant de sauter dans ses bras, il le fera. Parce qu'il a confiance en son père qui ne va pas le lâcher. Et si un autre lui dit, bah saute, il va hésiter, parce qu'il ne le connaît pas. Et c'est parce que Dieu est père de ses enfants et qu'il prend soin d'eux. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La priorité, c'est pour le royaume de Dieu. Comment ? Nous sommes... Enfin, vous savez, le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui était passé ou qui va venir. Nous sommes dans ce royaume. Parce que nous sommes un peuple, nous avons un roi et nous avons une terre. Cela veut dire aspirer à y rentrer dans ce royaume pleinement. Cela veut dire s'y soumettre aux lois de ce royaume, selon ce que dit Jésus, et vivre selon les recommandations du Maître. Et cela veut dire aussi participer à la croissance de ce royaume. Et les choses, toutes les autres choses, nous seront données par-dessus. Il faudrait faire cette distinction entre ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Un jour, John Stott disait, en fait, tout comme il n'existe que deux sortes de piété. L'une centrée sur soi-même, et l'autre centrée sur Dieu. Ainsi, il n'existe que deux sortes d'ambition. Un individu qui sera ambitieux que pour lui-même, ou pour Dieu. Que le Seigneur nous aide pour que nos ambitions, que notre existence soit centrée sur lui. Et aussi, mon dernier point, c'est pour vous dire que parce que Dieu est roi des lendemains, qu'on peut lui faire confiance. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui nous attend du lendemain. On ne sait même pas ce qui nous attend après. Est-ce qu'on va manger au restaurant ou on est invité chez quelqu'un? Et moi, j'aimerais dire que Dieu nous rassure. Il nous dit, vous savez même pas ce qui vous attend dans quelques minutes. Et moi, je suis maître des lendemains. Je sais toutes choses. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. L'une des images que Dieu utilise pour nous décrire et décrire notre relation à lui, c'est à plusieurs reprises, c'est l'image du bon berger. Je ne sais pas si vous étiez peut-être en contact avec des bergers, mais ils vous diront que les brebis, elles sont frileuses, elles sont très inquiètes. Et quand les brebis sortent, en fait, leur seul moyen, c'est de suivre le troupeau. Une brebis doit rester dans le troupeau pour trouver une assurance et que le troupeau reste auprès du berger jusqu'à l'arrivée au champ. Et donc c'est cette image que Dieu veut dire, d'intégrer son troupeau, de faire confiance au berger qui est Jésus. Et Dieu qui a la main sur les lendemains, il l'a aussi montré à travers tout ce qu'il a accordé à son peuple. N'est-ce pas lui qui a sorti son peuple de l'Égypte ? Qui les a conduits dans le désert, dans une terre hostile, à qui il a même offert le manger et le boire dans le désert où peu de vie vive. Ce n'est pas Dieu qui a aussi conduit jusqu'à la terre promise son peuple. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui nous a envoyé le Sauveur, qui a été annoncé dans l'Ancien Testament ? Dieu, de son côté, a tout fait pour nous. Est-ce que nous sommes prêts à tout faire pour lui ? En conclusion à mon message de ce matin, j'aimerais que nous rappelions tous ensemble la parole du prophète Ésaïe. Ésaïe 12, 2. « Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Oui, l'Éternel est notre force. C'est lui qui nous a sauvés. Faisons-lui entièrement confiance en toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.